Studio Tamani, voici nos informations en français.
À Dari, dans le cercle de Niafunke et sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à votre matinale. Voici les titres. Assise nationale de la refondation, l'étape de la diaspora a pris fin hier dimanche. En Mauritanie, au Niger, au Sénégal ou encore en Italie et aux États-Unis, les organisateurs affirment que ces travaux se sont bien déroulés. À quoi faut-il s'attendre après la visite annulée du président français au Mali? Des observateurs estiment que Paris pourrait tenter d'organiser un autre déplacement pour corriger son erreur. À Dari, dans le cercle de Niafunke, des dizaines de familles réfugiées en Mauritanie sont rentrées la semaine dernière. Ces ménages avaient fui leur localité suite à la rébellion de 2012. Ils demandent l'aide des bonnes volontés. À la présentation, Mariam Maïga, la technique est assurée par Mamadi Keïta. Les travaux des Assises nationales de la refondation se poursuivent. Après les phases locales et communales, celle dédiée à la diaspora et aux réfugiés a pris fin hier dimanche. Dans certains pays en Afrique de l'Ouest, on se réjouit de la participation et de la qualité des débats. Par contre, en Europe et en Amérique, on regrette une participation en deçà des attentes. Le point avec Ali Sissi.
Au Niger, au Sénégal et dans d'autres pays de la sous-région, le Conseil supérieur de la diaspora note un bon déroulement des travaux. Selon Suleiman Maïga, secrétaire général du CSDEM au Niger, les discussions se sont focalisées sur la restauration de la sécurité, le retour des réfugiés et le renforcement des moyens de l'armée.
La sécurité, la paix, le retour des réfugiés, c'est un des premiers points à débattre. Au Niger, nous avons 5 ans de réfugiés ici. Le Niger regroupe le plus grand nombre de réfugiés. On a demandé le retour des réfugiés. Nous, on est allé jusqu'à dire de consacrer plus de 30% du budget national à l'armée.
Les Maliens établis aux États-Unis n'ont pas pu participer tous aux travaux des Assises nationales de la refondation à cause de la crise sanitaire. Cependant, les participants au débat ont été autorisés à envoyer leurs questions et réponses par SMS. Madame Fatoumata Diarra, présidente du bureau régional du CSDEM aux États-Unis.
À cause du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont passés, mais on a autorisé les gens à envoyer les SMS, à envoyer leurs réponses par SMS aussi. Et nous avons eu des vidéos virtuelles aussi. Et à Washington, on avait au moins une quarantaine de personnes. Il faut le dire qu'il y avait beaucoup de détails pour le temps qu'on avait.
Notons que la prochaine étape des assises est la phase régionale prévue du 22 au 23 décembre prochain.
Un reportage signé Ali Sissé. Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et en partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Alors qu'il était annoncé au Mali ce lundi 20 décembre, le président français a annulé son déplacement. Officiellement, les autorités françaises ont annoncé la pandémie de la COVID-19. Mais selon plusieurs sources, Paris et Bamako avaient des désaccords sur plusieurs points concernant cette visite. Pour certains observateurs, l'annulation de cette visite n'est pas une surprise. Ils estiment que Paris avait commis une erreur diplomatique au préalable. On fait le point avec Hawa Berti.
L'université Daouda Traoré analyse l'annulation de cette visite du président français sous l'angle d'un désaccord entre Paris et Bamako. Selon lui, les autorités françaises n'ont pas bien préparé ce déplacement. Daouda Traoré, enseignant à l'université des sciences juridiques et politiques.
Ça ne pouvait pas marcher parce que ce qui devait être fait au préalable entre les deux autorités dans les coulisses n'a pas été fait. Cette étape a été brûlée par la partie française. Donc, obligatoirement, il fallait annuler cette visite-là.
Pour Daouda Traoré, les discussions vont continuer en coulisses et la France va tenter de rectifier les tirs, dit-il.
Je crois que les choses ne vont pas s'arrêter là parce que, au vu des prétextes avancés, les travaux de coulisses vont se faire histoire d'aller à cette rencontre-là entre Bamako et Paris.
Il faut rappeler que cette visite d'Emmanuel Macron devait s'effectuer ce lundi 20 décembre. Elle allait être la première du président français au Mali depuis les deux coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021.
Sur un tout autre sujet, le Tchad va envoyer 1000 soldats au Mali pour renforcer ses effectifs au sein de la MINUSMA. Cette annonce a été faite ce week-end par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Dans un communiqué, le gouvernement malien confirme avoir donné son aval pour le déploiement de ses soldats tchadiens. Mais pour le moment, aucune indication sur le calendrier ou la zone de déploiement de ses forces. Rappelons que 60 casques bleus tchadiens ont trouvé la mort au Mali depuis leur déploiement. Parlons d'insécurité. Après l'attaque d'un car de transport civil à Songo le 4 décembre dernier, les forces armées maliennes ont lancé des opérations antiterroristes dans la zone, notamment le long de la route nationale 15. Ce ratissage a commencé à s'évarer et se poursuit jusqu'à la frontière burkinabé et dans d'autres localités environnantes. Des habitants de la zone affirment que le calme est revenu dans la région grâce à ces opérations. Plus de détails avec l'Alaïcha Wallet Infa.
Le gouverneur de la région confirme ses opérations de ratissage dans la région. Meissa Fane, gouverneur de la région de Bandiagara.
Depuis un certain temps, les forces de défense et de sécurité sont en train de prendre des dispositions justement pour organiser des patrouilles de l'un de la RN15 qui commence de s'évarer jusqu'à la frontière Burkina Faso. La situation est calme au niveau de tous les villages. Les populations vont à leurs occupations.
À Bandiagara, certains habitants se disent soulagés par ces actions des forces armées maliennes. Ils affirme que les résultats sont pour le moment visibles sur terrain.
Depuis que l'armée a commencé les opérations de ratissage, pour le moment, on n'a pas entendu parler d'attaque et c'est réconfortant. Très franchement, nous sommes satisfaits.
On ne veut pas qu'ils repartent encore. Ils doivent rester pour sécuriser Banyangara. Ce pays nous appartient tous.
Ce qui nous renforce encore de plus, c'est que leur engagement pour soulager un peu la population ne se continue selon les informations.
Les populations demandent cependant aux autorités de maintenir cette dynamique pour que la paix revienne définitivement au centre du pays.
Autre titre de l'actualité du jour, plusieurs dizaines de familles de réfugiés ou de déplacés sont rentrées au Berkaï ce lundi 13 décembre à Dari, dans le cercle de Niafinke. Certaines de ces familles étaient en Mauritanie depuis la rébellion de 2012, alors que d'autres s'étaient déplacées vers la région de Ségou à cause de l'insécurité. Ce retour spontané a été organisé sans le soutien d'aucune autorité mauritanienne ou malienne. Pour le moment, les réfugiés et déplacés n'ont pas reçu la visite des autorités. Notre correspondant à Niafinke, Sekou Maïga, est allé à leur rencontre.
C'est au total 120 familles qui sont rentrées du camp d'Umberra en Mauritanie. Après 10 ans d'exil, ces réfugiés espèrent reprendre une vie normale. Mais ici, les traces d'une crise sécuritaire combinée aujourd'hui à la précarité font renaître des incertitudes. Khalid Aghamed, un réfugié de retour à Dari.
Nous sommes ici dans l'école de Dari. Ce que vous voyez sont des impacts de balles. C'est à cause de ça qu'on a quitté ici depuis janvier 2012. On revient pour la première fois après 11 ans. On est revenu avec des femmes et des enfants. On reconstruit notre village. Et on a trouvé le village, il n'y a rien.
En plus des familles venues de Mauritanie, 65 autres sont rentrés de Niono et de Djoura dans la région de Ségou. Ces ménages aussi avaient fui les violences à Dari. Ilada Haidara, chef de village de Dari, demande de l'aide aux bonnes volontés.
On a vraiment besoin d'aide. Figurez-vous que les gens qui sont venus d'Embera, c'est environ 120 familles et 65 ménages qui ont fui l'insécurité dans la zone de Niono et Djoura se sont ajoutés à ces nombres. Ces familles manquent de tout. Elles sont réellement nécessiteuses. Elles ont tout laissé derrière elles.
Depuis leur retour, ces habitants n'ont encore reçu la visite d'aucune autorité. Malgré cela, ces habitants de Dari comptent rester pour reconstruire leur village et participer au développement du pays. Sekou Maïga de retour de Dari dans le secteur de Niafunke pour Studio Tamani.
Direction Niono, dans la région de Ségou où le paludisme et les infections pulmonaires sont entre autres les maladies les plus enregistrées au centre de santé communautaire central de la localité. Chaque année, plus de 150 cas de paludisme chez les enfants de 0 à 15 ans et environ 200 cas d'infections pulmonaires sont enregistrés par le centre. Ces informations sont données par les responsables du CSCOM. Retrouvons le récit de notre envoyé spécial de retour de Niono, Khalifa Guita.
Pour certains usagers du CSCOM, tout se passe bien concernant la prise en charge des malades. Mais d'autres regrettent une négligence des agents de santé.
Je suis là pour la vaccination de mon enfant. Je suis venue de loin. Je dois aller préparer encore. Ils font du bon boulot. Les retards, la négligence des docteurs, c'est ça qui me fait très mal.
Non, tout va bien là, du CSCOM ici. Je n'ai pas de problème.
Le directeur technique du CESCOM central de Nyono souligne qu'il n'y a pas assez d'agents qui travaillent dans ce centre de santé. Il salue toutefois le soutien de certains partenaires, notamment Médecins sans frontières. Docteur Issa Tunkara.
Notre médication est très précaire, il y a des traitements ambulants partout. Et je n'ai que deux sages-femmes officiellement. Heureusement, nous avons reçu l'appui du Médecins sans frontières qui nous ont donné des infirmières obstétriciennes qui, pour l'instant, à reconstruire notre centre de santé qui est actuellement en réhabilitation. La gratuité est devenue une réalité dans mon centre. La gratuité concerne les femmes enceintes. Après l'accouchement, l'enfant sera pris en charge jusqu'à l'âge de 14 ans.
Docteur Tunkara précise aussi qu'une démarche est en cours pour pérenniser la gratuité des soins au niveau de ces CESCOM. De Nyono, Khalifa Guita pour Studio Tamani.
Restons dans le domaine de la santé pour parler de l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités sanitaires ont enregistré au cours de ces dernières 24 heures 114 cas de COVID-19, 173 patients guéris et 0 décès. Ces nouvelles contaminations proviennent de Kai, Sikasso, Ségou et Bamako. Place à la rubrique Actu Covid, une présentation de Aïssata Diarra et ce numéro est une rediffusion.
Une campagne d'information et de sensibilisation sur la COVID-19 a démarré lundi 29 novembre 2021 à Yanfolila. C'est une initiative du comité de pilotage de la crise sanitaire dans le sac de Yanfolila. Selon les responsables du comité, les zones ciblées sont les aires de santé, les sites d'orpaillage, les lieux de culte et les écoles. Awa Berthe nous en dit plus.
L'objectif de ces 3 mois de campagne est d'inciter la population à se faire vacciner. Dr Abdrahaman Traoré, point focal COVID-19 au district sanitaire de Yanfolila.
Vu les lenteurs constatées par rapport à la vaccination et l'augmentation du nombre de cas de COVID au Mali, c'est ce qui nous a poussé d'organiser avec les services de développement social, la préfecture et l'ensemble des membres du comité de pilotage à organiser cette journée d'information.
Des habitants de Yanfolila estiment que leur réticence à se faire vacciner découle des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux.
À travers des réseaux, les gens sont effrayés par rapport à ces vaccinations.
C'est par manque de confiance. Et puis, les gens parlent des effets secondaires post-vaccination.
Disons la vérité, moi, 15 ans, j'avais pas compris. Je pensais que la vaccination amène d'autres maladies. Mais maintenant, j'ai compris que c'est une bonne chose.
Les initiateurs de cette campagne demandent l'accompagnement de la population pour la réussite des activités.
À présent, place à la question d'auditeur. La réponse vous sera donnée par Dr Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Faut-il porter un masque quand on fait du sport?
On n'est pas obligé, sauf si les conditions du sport nous l'exigent. C'est-à-dire vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, ce n'est même pas nécessaire. Le sport cherche quelque chose et les cellules ont besoin d'une bonne oxygénation. Et le masque va vous priver de cette bonne oxygénation. Sauf si vous êtes contraint de porter le masque parce que vous rentrez dans un sport où il y a le contact physique, il y a le rapprochement avec d'autres personnes dont les statuts sont les mêmes, alors il faudrait porter votre masque.
Ainsi prend fin ce numéro. Merci pour votre confiance. Respectez les mesures barrières pour vous protéger de la COVID-19.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keïta a assuré la technique. Ne décrochez pas car l'info continue.